Bonjour, cher ami. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de parler de la pluie abondante. Zacharie, chapitre 10, le verset 1. C'est le Saint-Esprit qui nous fait une invitation. Il nous dit, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » C'est la volonté de Dieu de nous envoyer la pluie. C'est le Saint-Esprit qui dit au travers de la parole, « Demandez la pluie, et l'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie. » Il y a des éclairs qui viennent avec sa pluie, des éclats de vérité qui vont venir avec sa pluie, parce que sa pluie doit être précédée d'éclats de vérité, parce qu'il y a un temps pour Dieu d'envoyer la pluie. Dieu veut répondre à cette prière, mais ça peut prendre un certain temps, parce que Dieu va préparer nos cœurs pour recevoir cette pluie. Il va nous préparer en conséquence. La parole nous parle sans arrêt de la pluie. Il enverra la pluie en son temps. En son temps fait toute la différence. Une pluie qui ne survient pas dans le bon temps ne fera pas de bien, ne sera pas bénéfique, comme nous dit Proverbe chapitre 26, le verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. La pluie ne convient pas durant la moisson. Comme la neige ne convient pas durant l'été. Avez-vous vu déjà de la neige en été? Cela ne convient pas. La gloire de même ne convient pas à l'insensé. La pluie céleste, la pluie qui vient d'en haut, qui est remplie de la gloire de Dieu, ne convient pas à des insensés. Il faut que Dieu vienne d'abord assagir notre cœur, le sanctifier, le purifier au travers d'un feu, un baptême de feu pour purifier le cœur, des éclairs de vérité pour faire éclater notre cœur, pour mettre la lumière dans le fond de notre cœur. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Premièrement, il faut savoir d'où nous vient cette pluie abondante. D'où nous vient cette vie, cette gloire, cette vérité. Jean 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Verset 4, en elle, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie de Christ, la vie de la parole, la vie que le Christ est venu manifester, est la lumière des hommes. C'est ce qui nous éclaire, parce que nous n'avons point la vie en nous-mêmes. L'apôtre Jean ne dit pas « En nous était la vie, en lui était la vie, en Christ est la vie. » Et si nous ne collons pas à Christ, si nous ne nous attachons pas à Christ, toujours proche de lui, intimement relié à lui, nous ne pouvons pas bénéficier de sa vie et nos cœurs demeurent dans les ténèbres, parce que sa vie est notre lumière. Sa puissance de vie, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous éclaire. Cela vient de lui. Cela sort de lui. Parce que Christ est la vie. Il est le chemin. Il est celui qui resplendit et qui nous montre la voie, qui nous montre ce qu'a été Dieu pour nous. Dieu est amour. Dieu est amour agapé. Amour agapé, ça veut dire Dieu a choisi d'aimer. C'est son choix. Il aurait pu choisir autre chose. Il a choisi d'aimer. Contrairement à Satan, qui n'a pas choisi ce chemin-là. Dieu a choisi d'aimer les autres, sa création, sans égard à lui-même. Même jusqu'à aller à la croix. Même jusqu'à renoncer à lui-même et à s'abaisser par pur amour. Même jusqu'à souffrir pour sa création par pur amour. Ça a été le choix de Dieu d'aimer sans égard à lui-même. Satan a choisi tout le contraire. Satan a choisi de s'aimer lui-même sans égard aux autres, même au détriment des autres, en se foutant des autres, même si cela devait amener la mort, la destruction chez les autres, en autant que lui était élevé, en autant que lui était aimé. Son propre égoïsme tout tourne autour de lui, de vivre pour lui sans égard aux autres, sans aucun respect pour les autres. Mais la voix de Dieu qui s'est manifestée au travers de Jésus-Christ nous a montré tout le contraire. Dieu, le véritable amour agapé, s'est manifesté en Christ. Sa voix, sa manière d'être, son caractère, c'était d'aimer sans égard à lui-même, en s'oubliant complètement lui-même pour les autres. En Dieu, il n'y a point d'égoïsme. Il n'y a que de l'altruisme, de se donner pour les autres. Dieu n'est pas égoïste quand il demande pour lui la gloire. Est-ce égoïste pour un inventeur de quelque chose, un créateur, de tirer gloire de son invention, de sa création? Est-ce égoïste pour J. Armand Bombardier de tirer gloire d'avoir inventé la motoneige? Non, c'est juste, c'est lui qui l'a inventé. Est-ce égoïste pour Dieu de tirer gloire de sa création qu'il a tout fait en entier, qu'il a entièrement fait du début à la fin, pour notre plaisir en passant, pas pour son plaisir à lui? Il a créé les petits oiseaux pour notre plaisir, les fleurs pour notre plaisir, les cours d'eau pour notre plaisir, les arbres, tout cela pour faire notre plaisir, les animaux. Est-ce égoïste qu'il tire gloire de ce qu'il a fait? Non, cela est juste et normal. Qu'il tire gloire et reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais Dieu a montré qu'il était amour au travers de Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin à suivre. Mais Satan a suivi le chemin contraire, de ne penser qu'à lui. Et nous, nous avons un choix. Suivre Christ, le chemin de Christ, le chemin de l'amour agapé, ou suivre Satan, le chemin de l'égoïsme, le chemin du penser juste à lui-même, de vouloir toujours vivre que pour lui. En lui était la vie. Christ veut nous accorder la vie qui vient de lui, parce que Christ est Dieu. Nous ne sommes que des brebis et nous avons besoin de Dieu, du Dieu vivant, qu'il vienne lui-même paître ses brebis, pourvoir à nos besoins, à tous égards. En lui est notre vie. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Paul nous donne une belle image de la grâce de Dieu, de l'abondance de cette grâce. La grâce de Dieu, ce n'est en fait que la révélation, la connaissance par l'Esprit de Dieu de tout ce qui a été fait par Jésus-Christ à la croix pour nous. Ça, c'est la grâce, la définition de la grâce. La reconnaissance par l'Esprit de Dieu de tout ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Il dit à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Remarquez, en Christ, pas en nous. Ils ne sont pas en nous, les bénédictions. Ils ne seront jamais en nous. Ils vont toujours être en Christ. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de se coller à lui, de s'attacher à lui, de s'approcher continuellement de lui. Car ils sont en lui, pas en nous. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La sainteté, l'irréprochabilité. Cela vient de lui, c'est en lui. Ça nous est donné si on se colle à lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, par amour, pour célébrer la gloire de sa grâce, la grâce glorieuse dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, la grâce étonnante de Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comment la grâce est-elle répandue abondamment sur nous? Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu nous fait une révélation de ce que Christ a fait à la croix. Il nous fait reconnaître. Il nous ouvre les yeux pour qu'on voit ce qu'il a fait à la croix pour nous. Verset 10. Pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La grâce de Dieu qui se révèle dans tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La révélation de sa provision à la croix pour nous. Parce que nous étions perdus, parce que nous étions damnés, parce que nous avons oublié le chemin à suivre. Nous nous étions égarés. Nous étions trompés, bernés par l'ennemi, par Satan. Nous avions suivi un mauvais chemin qui conduisait à la perdition. Et Christ a pris sur lui notre faute. Il a porté notre châtiment. Il a pris sur lui toute notre dette, tout ce que l'on devait à Dieu. Parce que quand il est mort à la croix, quand il a dit « tout est accompli », le mot grec, c'est le même mot pour « tout est payé ». Comme on met un sceau sur une lettre pour dire, sur une facture pour dire qu'elle a été payée entièrement. C'est ça que Christ a dit à la croix. « Tout a été accompli. Tout a été payé. Votre dette est entièrement payée. Maintenant, vous êtes pardonné. Vous n'avez plus de dette envers Dieu. Vous êtes réconcilié avec votre Père. Vous avez un nouveau accès auprès du Père à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Vous êtes justifié en lui. vous êtes en lui sanctifié, assagi par son esprit, qu'il a pourvu aussi à la croix pour vous. En lui, la révélation de tout ce qui a été fait à la croix. C'est la première partie des trois premiers chapitres d'Éphésiens. L'apôtre Paul nous parle de cette grâce qui est en lui. Et là, à partir du chapitre 4, il nous parle du second aspect de la grâce, des sentiers de la grâce, de la marche que cette grâce veut produire en nous. Parce que la grâce se révèle ce que Jésus a fait à la croix, mais il y a une seconde facette. Il y a l'endos de la médaille. Il y a ce que la grâce nous entraîne à faire à sa suite. Notre participation. La première partie, c'est comme un bébé. Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Mais à la deuxième partie, la grâce veut nous entraîner. Et il faut que nous apprenions à la suivre. Parce que sans ça, nous allons manquer le but. Il y a un chemin, il y a une marche à suivre à la suite de la grâce. Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, comme Christ a marché, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et à partir du verset 17 du même chapitre, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » La grâce, c'est la révélation de ce que Jésus a fait à la croix, de tout ce qui a été fait par lui à la croix. Et on entre dans cette connaissance-là par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux et on reconnaît ce que Jésus a fait à la croix. Mais les sentiers de la grâce, c'est l'envers de la médaille. C'est reconnaître tout ce qui n'a pas été fait par nous. Et tout ce qu'on ne pourra jamais faire de nous-mêmes. C'est reconnaître ce qui est en nous. C'est que nous marchions selon la vanité de notre pensée. C'était notre condition. Et c'est notre condition si nous ne demeurons attachés à Christ. Nous sommes incapables de nous diriger, nous sommes des brebis, nous sommes incapables de nous diriger par nous-mêmes. Notre cœur a été corrompu par le péché. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a pas un juste, dit l'apôtre Paul, pas même un seul. Nous étions tous perdus dans l'ignorance. Notre vie continue à couler de lui. Elle ne vient pas en nous. Elle continue à couler de lui vers nous. Lui, il est notre lumière. Verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Toute espèce de convoitise. La convoitise et l'orgueil, ce pourquoi le monde vit. Mais c'est ce pourquoi nous vivions, nous aussi, avant. Mais la grâce de Dieu, en révélant ce qui a été fait à la croix, la dette qu'elle a payée, que Christ a payée pour nous, nous a montré aussi notre condition de perdu. Ce qui n'a pas été fait. Et parce que nous ne le pourrons jamais le faire, nous ne pourrons jamais ajouter une goutte de notre propre justice à la justice de Christ. Ce n'est pas à force de jeûne et de prière que nous allons rajouter à la justice de Christ, nullement. Nous avons besoin d'être continuellement en contact avec cette justice de Christ qui vient par la foi de l'Esprit de Dieu, qui coule en nous, reconnaissant que nous ne serons jamais capables de faire par nous-mêmes quoi que ce soit, à moins que nous ne demeurions attachés à lui. C'est pour cela que la seconde facette de la grâce, qui nous entraîne à marcher dans ses sentiers, nous amène à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre propre âme, à notre propre cœur, cette partie de notre cœur qui est irrégénérée, parce que nous ne pourrons jamais marcher selon notre âme. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui même après 20 ans, après 30 ans de vie chrétienne, nous ne pouvons pas marcher selon notre âme. Nous allons nous perdre. C'est pourquoi il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Ça, c'est pas quelque chose qui a été fait une fois pour toutes. C'est quelque chose que tu fais continuellement à chaque jour. Tu renonces à toi-même. Tu te tiens à la croix. Tu t'attaches à cette croix où Christ t'a emmené, où l'Esprit de Dieu veut t'emmener. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Toute chose qui agit au niveau de votre âme. Ces convoitises veulent venir agir au niveau de vos pensées, de vos désirs, de votre volonté. Même si vous êtes régénéré, vous avez un nouvel esprit, un nouveau cœur. Il y a une partie de votre cœur qui est l'âme, qui, elle, a besoin de constamment laver par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, pour ne pas retomber dans ces vieilles convoitises. C'est pourquoi il faut que vous renonciez à chaque jour que vous viviez votre mort avec Christ, à chaque jour que vous portiez cette croix, unie à la croix de Christ, unie dans son renoncement à lui-même, dans votre oubli de vous-même, que vous viviez par Dieu, par Christ et pour Christ. Que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau et à recevoir la nature de Christ, la lumière, la vie qui vient de Christ. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un esprit de vérité. L'Esprit de vérité va venir nous donner ce qui vient de Christ, ce qui appartient à Christ, tout ce qui appartient à Christ, toute la vie qui est en Christ. L'Esprit de vérité veut nous la donner au travers de la vérité, au travers de cette vérité qui va nous libérer, nous donner cette justice et cette sainteté qui vient de Dieu, la vérité qui affranchit, comme dirait l'apôtre Jean. Verset 25, c'est pourquoi renoncer, le renoncement, renoncer au mensonge, à toute forme de tromperie, renoncer au chemin que le diable, au chemin de la convoitise et de l'orgueil, le chemin que le diable a suivi lui, renoncer à cela, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La marche selon les sentiers de la grâce. La marche dans laquelle le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, veut nous entraîner. Cette deuxième facette de la grâce, qui sont les sentiers de la grâce. La révélation par l'Esprit de Dieu de tout ce qui n'a pas été fait par nous et qui ne le sera jamais. De notre complète impuissance, de notre futilité, de nos efforts pour accomplir une certaine justice. Une certaine forme de sainteté. Non! Christ a prouvé que nous étions faillites à la croix. Si nous n'avions été capables par nous-mêmes de quelconque forme de justice, de sainteté, il n'aurait pas eu besoin de mourir à la croix. S'il est mort à la croix, c'est parce que nous avions une dette qui était impayable de nous-mêmes. Nous étions incapables de faire le bien. C'est pourquoi Christ est venu, comme le berger des brebis que nous étions. Nous sommes tous comme des brebis qui constamment s'égarent, et nous avons besoin de rester proches du berger qui, lui, est notre sécurité. Lui est le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut, c'est pas en nous, c'est en lui. C'est lui qui va nous assurer de la vie éternelle, de cette sécurité, du bon chemin à suivre. Et en autant que nous écoutions sa voix. Écouter, ça veut dire premièrement entendre sa voix et le suivre, l'obéir. On ne peut pas obéir au Saint-Esprit si nous n'entendons pas d'abord sa voix. Beaucoup de chrétiens sont tellement occupés aux choses du monde qu'ils n'ont pas de temps pour entendre sa voix. Ils ne s'approchent pas de lui. Ils ne se collent pas à lui. Ils parlent d'obéir, mais obéir à quoi? Ils n'entendent pas l'Esprit de Dieu. Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas l'Esprit qui parle à l'Église. On ne peut pas écouter ou obéir à quelqu'un qu'on n'entend pas parce qu'on est trop occupé dans les préoccupations, les soucis de ce siècle. Il faut prendre le temps de venir s'approcher de notre bon berger, de s'approcher, de se coller à lui, afin d'entendre premièrement et d'obéir. C'est cela que ça veut dire écouter. Celui qui écoute, mes brebis entendent, écoute ma voix. Ils m'écoutent, ils reçoivent et ils me suivent. Ils marchent à ma suite. Ils marchent de ce sentier où tout a été payé par Christ, où Christ a pourvu pour tout, à la croix. Tout est grâce. Nous recevons de lui tout par grâce. Tout a été fait par lui. C'est par pur amour. Et nous recevons de lui justice. Nous recevons de lui sainteté. Nous recevons de lui sagesse. Christ a été fait pour nous justice. Sainteté, sagesse, rédemption, rachat pour nos fautes. Christ a été fait pour nous. Christ est notre vie. Et par son esprit, nous recevons. Nous sommes abreuvés de lui. Et c'est justement lorsque nous marchons dans ces sentiers que nous sommes transformés à son image par l'Esprit de Dieu de gloire en gloire, que nous sommes justifiés, sanctifiés, assagis, que là, Dieu peut envoyer sa pluie abondante, son salut qui puisse être déversé sur nous avec gloire, parce que la gloire ne convient pas à un insensé. Il faut que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre d'assagissement, de sagesse, de sanctification en nous avant d'envoyer cette pluie. Il n'est pas convenable d'envoyer la pluie à des insensés. Il n'est pas convenable que la pluie de gloire, que la présence glorieuse de l'Esprit, que son revêtement de puissance vienne sur des insensés. Cela ne convient pas. C'est pour cela que Dieu emmène son peuple au désert pour l'assagir, pour le purifier, pour lui apprendre son chemin, sa voie, son amour agapé, le chemin de l'humilité, qui est le chemin de l'amour. S'humilier, s'abaisser pour servir les autres, s'oublier soi-même, c'est le chemin que Christ a suivi. Et il nous dit, suivez le même chemin. Suivez le chemin du renoncement, de l'oubli de soi, de l'humilité. C'est le chemin que Dieu, le Père, a tracé pour nous, car Dieu le Père est humilité, le Dieu le Père est amour. Contrairement à Satan, qui lui est tout le contraire, qui est orgueil, qui est convoitise, qui ne pense qu'à lui, peu importe si les autres sont détruits, peu importe si les autres sont volés, peu importe si les autres sont molestés, pourvu que lui reçoive, pourvu que son gros moi, gonflé, imbu de lui-même, puisse vivre. Christ nous a appelés à mourir avec lui à la croix, à s'oublier soi-même, à vivre de sa grâce, purement et simplement, parce qu'il a tout pourvu par amour pour nous. Christ est notre Rédempteur. Christ est notre vie. Recevons pleinement sa grâce. Suivons sa grâce qui va nous enseigner à renoncer aux choses de ce monde, à l'impiété, à tout ce qui est dans ce monde, à devenir des vrais amis de Dieu, sans rien de l'esprit du monde, sans rien de cette convoitise, de cet orgueil qui faisait de nous autrefois des ennemis de Dieu. Suivons, marchons dans ce sentier, afin que la pluie abondante qui nous est destinée, c'est la volonté de Dieu d'envoyer cette pluie, de manifester son salut, de manifester sa guérison, de voir à nouveau les miracles, les gens sauvés, de voir à nouveau les malades guéris, les boiteux se lever, les sourds entendre, les aveugles voir. C'est son salut, c'est sa pluie qu'il veut envoyer sur nous, c'est son revêtement de puissance qu'il a promis à ses disciples, à ses serviteurs. Mais nous devons d'abord marcher dans ses sentiers, être justifiés, sanctifiés, assagis par lui, lui obéir, le suivre dans ce chantier du renoncement. C'est la voie de la gloire. Parce que la parole nous dit clairement que celui qui suit le chemin de l'humilité, les proverbes nous disent que celui qui marche dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, va hériter la vie, la richesse et la gloire. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est l'abondance qu'il veut nous donner, en autant que nous avons son caractère d'amour, que nous avons ce que lui avait dans son cœur, l'humilité, la douceur, la patience que lui avait dans son cœur. Il pourra bénir quand il verra ces choses-là. Il pourra envoyer sa pluie parce qu'il verra le terrain, la terre que nous sommes prêts à recevoir, la pluie de gloire qui veut descendre sur nous. Le revêtement de gloire du salut de Christ manifesté en puissance au travers de nous. Suivons ce sentier. C'est le chemin que Christ a tracé pour nous et c'est un chemin d'abondance, de bénédiction en abondance, de gloire en abondance. Mais ce n'est pas la gloire que nous cherchons, c'est la vie de Christ. C'est notre communion avec Christ qui est la plus importante. C'est la vie qui vient de Christ. C'est notre amour pour Christ et les autres qui prime. Voilà ce qui est la vie du vrai serviteur de Dieu. Amen.